Bien, mesdames, messieurs, bonjour pour certains d'entre vous que je n'ai pas encore vus. Je tiens donc tout d'abord à remercier particulièrement le réseau Art Nouveau Network et les organisateurs de ce laboratoire historique de m'avoir invité à venir vous présenter aujourd'hui une partie de mes recherches portant sur le papier peint Art Nouveau. Des recherches qui ont abouti donc à une thèse de doctorat que j'ai soutenue à Paris 1, à Paris, donc en novembre dernier. Il apparaît en effet comme une évidence que la thématique que nous abordons au cours de cette journée, donc celle de l'herbier Art Nouveau, recoupe bien des préoccupations qui ont été les miennes au cours des recherches qui ont été menées et qui ont mené donc à l'aboutissement de mon travail, la question donc bien sûr du monde végétal étant indissociable donc du mouvement Art Nouveau. On a déjà eu un peu l'occasion d'en parler ce matin. Alors mon intervention aujourd'hui s'articulera autour de deux axes principaux, donc abordant en premier lieu des questions d'ordre iconographique et se concentrant ensuite sur la fonction même, bien sûr, du support papier peint de mon objet d'étude, en montrant donc comment le papier peint, en tant que produit fondamentalement populaire, largement reproduit en série et bien souvent bon marché, constitue un support privilégié de diffusion de la flore Art Nouveau dans les intérieurs de toute classe sociale. Alors, avant toute chose, cependant, il convient de procéder à un bref rappel historique en ce qui concerne l'histoire du papier peint, l'histoire de ce support décoratif et donc de la place qui a occupé le végétal depuis donc les origines du papier peint. De manière générale, bien sûr, donc la représentation du monde végétal constitue une récurrence dans l'histoire de l'ornement, donc dans l'histoire des arts décoratifs, et de même en est-il depuis des siècles dans le domaine du papier peint, et ce déjà dans les dessins que montrent les ancêtres du papier peint, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dominos ou papier de tapisserie. Des ancêtres du papier peint qui se développèrent dès le XVIe siècle, pour résumer, et qui consistaient en l'impression à la planche de bois gravée en relief, donc de feuilles de papier, des feuilles de papier destinées à être disposées les unes à côté des autres, et qui venaient décorer les murs, mais également divers types d'objets tels que livres ou encore coffrets ou encore des paravents. Dès le départ, en tout cas, donc le monde floral fait largement partie du répertoire ornemental développé dans ce contexte, comme vous pouvez le voir par exemple donc dans cet exemple de domino que je vous montre ici, un domino qui est daté vers 1760, conservé au musée du papier peint de Rixheim en Alsace, en France. Donc un domino de 1760 qui montre également comment ce type de produit a perduré au XVIIIe siècle. Je passerai rapidement au sujet des diverses évolutions qu'a connues le domaine, mais en précisant que le XVIIIe siècle a également vu se développer le papier peint sous la forme, pour ainsi dire, telle que nous le connaissons aujourd'hui, donc c'est-à-dire sous la forme du rouleau, avec toujours bien sûr une grande importance des motifs végétaux, comme le montre ici ce papier peint. Il s'agit d'un papier velouté, qu'on appelle également papier tontis, qui était obtenu par l'application de poudre de laine, et une production qui se développa notamment au départ en Grande-Bretagne, donc où elle trouve ses origines. Donc ainsi, donc suivant les époques, au gré des modes et des tendances, fleurs et plantes bénéficièrent de traitements extrêmement variés, depuis leur stylisation jusqu'à leur traitement naturaliste, cette vogue naturaliste qui se rencontre particulièrement à partir des années 1830 au XIXe siècle, qui continue de se développer avec le temps, avec des papiers peints tels que celui que vous avez ici, qui est daté vers 1860 et qui est conservé à la bibliothèque Fornet à Paris. Enfin, bien sûr, on ne peut pas évoquer l'histoire du papier peint sans prendre en compte l'un des épisodes les plus marquants de cette histoire, l'un des épisodes les plus connus également, celui qui voit la production, surtout en France, des fameux papiers peints panoramiques, donc production qui s'étend de la toute fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1860. Alors vous en avez ici un très bel exemple avec ce panoramique qui est intitulé « Le Brésil » et imprimé donc par la manufacture Jules Desfossés à Paris à partir de 1862. Donc avec la représentation ici d'un paysage idyllique où on retrouve une flore naturaliste donc très diversifiée et qui permettait à l'usager vraiment donc de s'immerger dans son intérieur, donc au sein de cette flore ainsi que de cette faune. Alors la nature constitue donc le thème qui fut de tout temps privilégié par l'industrie du papier peint au cours de son histoire, et sur le plan stylistique, on le sait, les arts décoratifs devaient progressivement être marqués à partir du dernier tiers du XIXe siècle par une vive réaction à l'égard du naturalisme et des styles historicistes, une réaction qui trouve bien sûr une très grande partie de ses origines en Grande-Bretagne avec le mouvement Arts and Crafts. Et bien sûr, c'est également en Angleterre que le papier peint fut vraiment l'un des supports privilégiés au sein de cette révolution des arts décoratifs. Et il est bien sûr indispensable d'évoquer en ce sens le rôle majeur tenu par William Morris donc en la matière. Alors que l'industrie du papier peint s'était largement mécanisée avec le passage à l'impression mécanique, à l'impression au cylindre du papier peint, donc dans les années 1840, Morris et les tenants du mouvement Arts and Crafts rejetaient donc avec véhémence la banalité des produits issus du machinisme et appelaient donc, en matière de papier peint, un retour à un mode de production traditionnel, donc à un retour à l'impression à la planche. Et Morris prenait donc une stylisation des motifs qui devait être puisée dans la nature, donc une nature donc qui devait cette fois être stylisée, on le sait tous. Donc les deux papiers de Morris que je vous montre ici, Acanthus de 1875, Acanthus de 1875 et Pimpernel de 1876, imprimés par la manufacture britannique Jeffrey & Co, sont parmi les premiers papiers peints de Morris dans lesquels s'affirme chez l'artiste une plus grande liberté formelle, donc avec des motifs qui se font plus riches, plus complexes, qui accordent davantage de place aux formes curvilignes, et ce qui bien sûr devait avoir une grande influence en Europe continentale avec l'émergence donc du mouvement Art Nouveau. Alors outre William Morris, bien d'autres créateurs britanniques seraient à évoquer, en l'occurrence dans le domaine du papier peint, Walter Crane ou encore Charles Francis Annesley Voysey, mais bien d'autres également. On passe cependant rapidement, mais il faut préciser que ces papiers peints anglais ont eu vraiment une certaine importance lors de l'émergence de l'art nouveau en Europe continentale, et on citera par exemple le cas de Victor Horta qui à Bruxelles employa plusieurs articles britanniques dans lesquels dans les hôtels qu'il a construits, donc dans le cadre de plusieurs intérieurs de sa conception. Mais il convient aussi donc de souligner, dans le cadre développement de l'art nouveau, comment le papier peint fut également l'objet de toutes les attentions de la part des artistes et théoriciens du mouvement. Bon nombre d'entre eux ayant œuvré en la matière, que ces réalisations aient connu ou non de création, de concrétisation industrielle. Parmi les exemples les plus remarquables, évoquons celui des papiers peints conçus par Hector Guimard pour son Castel Béranger à Paris. Je vous en montre deux ici, datés vers 1896. Et vous voyez ici, donc à gauche, le papier peint destiné aux antichambres du Castel Béranger, et à droite, celui destiné au salon, avec une inspiration ici qui renvoie toujours au monde naturel, au végétal, mais bien sûr avec des motifs d'une très grande modernité, des motifs stylisés à l'extrême, et pour lesquels il n'est évidemment pas possible de reconnaître une quelconque espèce végétale de précisément représentée. Donc les exemples de papier peint d'artistes qu'il serait possible d'évoquer sont assez nombreux, et sans s'apesantir à ce sujet, notons que ce phénomène est bien sûr de dimension internationale. On parlera bien entendu également du Jugendstil allemand, avec des papiers peints créés par des artistes d'importance tels que Otto Eckmann ou Hans Christiansen. Il s'agit ici de deux papiers peints d'Hans Christiansen, imprimés en 1900. Et ici, donc bien sûr, comme dans la plupart des cas chez les artistes de la période, il faut bien entendu mentionner le fait que les usages de cette production restaient plutôt élitistes. Hein. Les papiers peints d'artistes n'ont pas connu de diffusion extrêmement large. Bien entendu, donc une production élitiste, surtout puisque leur coût était relativement élevé, puisqu'il y avait ce retour à des méthodes de production traditionnelles, donc impression à la planche, donc une production plutôt haut de gamme, qui n'était pas donc accessible aux classes sociales les moins aisées. Ainsi, pour évoquer l'iconographie florale des papiers peints Art Nouveau, je parlerai surtout ici de la production courante des industriels, imprimée au cylindre, largement mécanisée. Une production industrielle bien meilleur marché, donc, est très largement diffusée. Dans le cadre de cette production courante, les fabricants et les dessinateurs industriels qu'ils sollicitaient adoptèrent progressivement, en effet, une esthétique inspirée par l'Art Nouveau ou totalement Art Nouveau. Ils adoptèrent cette esthétique d'abord timidement au cours des années 1890, puis de façon de plus en plus massive à partir de 1900. Donc, à partir de 1900, en effet, ces motifs modernes se firent majoritaires dans les collections annuelles proposées, et ce, durant quelques années. Alors, le constat que je dresse ici est le fruit d'une investigation très large qui a été menée dans des archives assez complètes de différents fabricants importants de l'époque, principalement en France, mais également dans certains cas pour d'autres pays. Et il faut bien comprendre que ce dont il est question ici correspond à plusieurs milliers de motifs de fleurs Art Nouveau différents que j'ai référencés. Alors l'image que je vous montre ici est un exemple du type d'archive en question, constitué de très nombreux albums d'échantillons de papier peint. Il s'agit là plus précisément des archives de la Société française des papiers peints à Balagny-sur-Thérain dans l'Oise, en France. Et la photographie que vous avez ici, en fait, fut prise alors que ces archives étaient encore conservées dans l'usine elle-même, des archives cependant qui ont été liquidées judiciairement suite à la faillite de l'entreprise en 2006. Alors, dans tous les cas, parmi ces albums, ceux qui concernent notre période d'études pourraient être vus comme autant d'herbiers avec les très nombreux motifs floraux et végétaux qu'ils renferment, donc des herbiers avec de nombreux motifs dont une très large part, est dans le style Art Nouveau. Plus concrètement, sur le plan iconographique, les espèces végétales rencontrées dans cette production industrielle sont extrêmement nombreuses. Toutefois, la prise en considération des espèces botaniques les plus fréquemment rencontrées dans ce contexte livre quelques indications sur les vogues en cours ou renvoie à certaines symboliques goûtées par les mouvances 1900. On s'aperçoit dans les faits et de façon somme toute logique que les espèces florales les plus récurrentes dans ces papiers peints correspondent à celles, bien sûr, qui furent les plus prisées par le mouvement Art Nouveau de manière générale. Ainsi, les pavots, qui incluent également la catégorie donc des coquelicots, les pavots font clairement partie des motifs les plus récurrents. Alors, je vous montre ici différents échantillons qui sont issus d'archives de différents fabricants, donc la Société française des papiers peints, mais également Zuber à Rixheim, ou encore la manufacture Leroy à Paris, ainsi qu'une manufacture allemande, la manufacture Rasch à Bramsche en Allemagne, manufacture Rasch qui est toujours active d'ailleurs aujourd'hui. Donc le pavot, très nombreux, De même en est-il des tulipes. Vous avez ici des exemples avec notamment à gauche ici une composition tripartite assez remarquable de la manufacture Leroy à Paris, imprimée à partir de 1899, ainsi qu'ici d'autres papiers peints issus de la production de Rasch et en Allemagne donc et de la Société française des papiers peints encore. Mais d'autres fleurs encore furent particulièrement prisées. On retrouve les mêmes types de fleurs auxquelles on est habitué. Par exemple, les lys, ici avec un papier peint de la collection 1900 de la manufacture Leroy, ou encore les orchidées, bien sûr. Vous avez à droite un papier peint à motif d'orchidée imprimé par Zuber à Rixheim en 1897. On peut encore citer les chrysanthèmes, et je vous montre rapidement ici un article qui apparaît dans la collection 1900-1901 de la Société française des papiers peints, et qui fait partie des quelques articles qui témoignent d'une collaboration avec des artistes décorateurs de la période. Ici, un certain Jacques Policard, que l'on connaît notamment pour avoir exposé dans les salons parisiens. Donc, il ne s'agit pas d'un dessinateur industriel, donc une collaboration concrète d'un artiste décorateur de l'époque, avec l'industrie du papier peint. Les iris, on en a déjà parlé tout à l'heure en ce qui concerne le textile, les iris font également partie des espèces végétales que l'on rencontre souvent, telles que pour les deux motifs que vous avez ici. Là encore, ces deux motifs sont issus des archives de la Société française des papiers peints. Des motifs qui rendent également compte de la manière, on l'a déjà dit tout à l'heure aussi, dont une même fleur, donc ici l'iris, toujours dans un style art nouveau, pouvait subir un mode de traitement stylistique bien différent d'un cas à l'autre. Citons également quelques exemples encore, l'épissenlit, par exemple, donc l'épissenlit que l'on rencontre souvent, avec ici un exemple assorti de sa bordure, imprimé en 1900 par la manufacture Grandil de Chalon-sur-Marne, autre fabricant français d'important à l'époque. Et mentionnons encore les chardons, des chardons que vous avez ici à droite, avec encore un produit de la Société française des papiers peints, collection 1900-1901. Alors on ne saurait bien sûr s'arrêter là, j'aurais pu également vous montrer bien d'autres exemples. Nous rencontrons vraiment les fleurs les plus récurrentes de manière générale dans le mouvement Art Nouveau, également la pensée, le muguet, les pivoines, les marguerites ou encore des glycines. Donc les espèces rencontrées sont vraiment des plus nombreuses. Enfin, outre les fleurs, notons également que certains arbres apparaissent aussi de façon récurrente, avec en particulier bien sûr le marronnier, également la feuille de châtaignier. On a ici un papier peint de la manufacture Zuber, imprimé en 1901. Alors en ce qui concerne donc les motifs végétaux que l'on rencontre le plus souvent dans ces papiers peints, j'insiste encore particulièrement sur le fait que ce sont les mêmes qui, dans le contexte de l'Art Nouveau, furent le plus souvent choisis pour de nombreux supports décoratifs, donc aussi bien chez les artistes que dans la production de diverses industries ornementales. Donc il s'agit bien de voir qu'il ne s'agit pas ici d'une spécificité du papier peint, on le sait bien entendu. Alors le goût des mouvances Art Nouveau pour les symboles peut en particulier expliquer la préférence pour telle ou telle espèce, donc le lys renvoyant par exemple à la notion de pureté, ou le pavot renvoie au sommeil. Le chrysanthème est un symbole asiatique de longévité, d'immortalité, symbole asiatique donc qui évoque également l'intérêt continu de la période pour l'Extrême-Orient, et donc son succès bien sûr donc dérive des tendances japonisantes du mouvement Art Nouveau. Mais d'un point de vue plus strictement esthétique, d'un point de vue plus strictement formel, il est certain que certaines fleurs, par leur apparence même, étaient probablement vues comme se prêtant plus que d'autres à certaines exubérances de l'Art Nouveau. Ainsi, les larges pétales et les nombreux pistils du pavot, les étamines du lys, les épines du chardon ou encore donc les feuilles déchiquetées donc du pissenlit étaient tout autant d'éléments qui pouvaient être amplifiés et réinterprétés dans un style donc tout en courbe et en sinuosité que nous connaissons bien. Alors, sur le plan symbolique toujours, il convient enfin de mentionner le fait qu'un certain nombre de ces papiers peints montre souvent une même fleur représentée à différents stades de son existence, donc en bouton, en train d'éclore, déployant donc toute l'envergure de ses pétales, puis se fanant. Donc cette iconographie renvoie à un thème particulièrement prisé donc du symbolisme et de l'art nouveau, soit le thème du cycle vital, thème du cycle vital que il me semble on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce matin. Donc ici cette fleur en différents états de floraison qui renvoie au cycle vital depuis la naissance jusqu'à la mort. L'exemple que vous avez ici est vraiment assez remarquable et est un motif d'orchidée, vous le voyez, et illustre bien cette symbolique. Il s'agit ici d'un papier peint de la manufacture Grand Île de Chalon-sur-Marne, qui fait partie d'ailleurs des articles que ce fabricant montrait lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et on sait également que son motif, ce motif d'orchidée avec cette thématique du cycle vital, est issu de l'atelier de dessin industriel de Robert Rupp. Alors Robert Rupp, sans m'apesantir à ce propos, puisqu'il ne s'agit pas du sujet de mon intervention aujourd'hui, Rupp fut vraiment l'un des principaux dessinateurs industriels de la période, qui fournissait ses modèles aux fabricants les plus importants, aussi bien en France qu'à l'étranger, et du reste d'autres motifs que je vous ai précédemment montrés sont issus de l'activité de cet atelier. Et j'en reviens encore au textile qu'on a évoqué ce matin, puisque Rupp fournissait aussi bien l'industrie du papier peint que l'industrie textile. Donc il y aurait probablement dans les collections de Terrassa des investigations, peut-être des choses à trouver à ce sujet. Donc je vous ai donc montré ici différents exemples qui ne constituent qu'une part infime, je le répète, des milliers de papiers peints floraux, de ce type, hein, milliers de papiers peints floraux de ce type qui ont été mis à cette époque sur le marché, donc à la Belle Époque. Cette multitude de motifs floraux renvoie bien sûr à l'omniprésence pratiquement du végétal au sein du style Art Nouveau, toute industrie ornementale confondue. Et il s'agit donc de chercher désormais à caractériser cette production de papier peint au regard même de sa fonction, c'est-à-dire en fonction de son insertion au sein de l'intérieur. L'idéal du mouvement d'une application du style à tout objet agrémentant le quotidien tendait à placer l'individu au sein d'un environnement, l'habitat, dominé par les formes issues de la nature, réinterprétées. Les fleurs Art Nouveau des papiers peints était donc appelé à participer à cette conception de l'intérieur et donc pourrait apparaître comme constituant son écrin. Aux côtés de ces papiers peints aux fleurs Art Nouveau, les fabricants continuaient aussi à imprimer des motifs ordinaires ou inspirés des styles passés. La question qui se pose dès lors est ainsi celle du choix effectué par le consommateur dans la boutique. C'est d'ailleurs cette confrontation qui illustre l'image que je vous montre ici, une affiche publicitaire américaine qui est conservée en Angleterre à la Whitworth Art Gallery de Manchester et qui montre cette jeune femme confrontée à tous ces échantillons de papier peint qui constituent une sorte de patchwork de styles divers, aussi bien modernes qu'inspirés des styles passés. Afin de démontrer donc la diffusion concrète de la flore Art Nouveau dans les intérieurs par l'intermédiaire du support papier peint, il s'agit donc de prendre en considération différents témoignages qui en attestent. Or, en raison du caractère éphémère de ce support décoratif, la préservation in situ de papier peint de cette période demeure relativement rare. Alors j'en citerai ici deux exemples pour la France, à commencer ici par celui de la maison d'Aristide Bergès à Lancey, près de Grenoble, en France. Et cette demeure, dont le propriétaire est connu pour avoir été l'un des pères de l'hydroélectricité, cette demeure est donc un cas exemplaire, voire plutôt unique, dans le sens où plus d'une vingtaine de papiers peints de cette époque, dont la grande majorité est de style 1900, ont été référencés, que ces papiers peints soient toujours en place ou que des fragments aient été mis au jour ici et là. Dans les faits, presque tous les murs de la demeure étaient alors recouverts de papier peint, ce qui montre également le goût de la période pour ce support décoratif. Alors, l'intérêt également de cet exemple réside aussi dans le fait que la famille Bergès entretenait une amitié avec plusieurs artistes de l'époque et surtout entretenait une amitié avec Alphonse Muchat qui séjourna donc dans cette demeure. Je vous montre ici justement la chambre dans laquelle Muchat fut hébergé et dans laquelle deux couches de papier peint Art Nouveau ont été mises au jour. Vous pouvez voir ici un papier peint au motif très stylisé, donc de fleurs de lotus, espèce qui fait d'ailleurs également partie de celles qui sont alors largement prisées par le mouvement Art Nouveau. Et il m'a en fait été possible d'attribuer ce papier peint en tant que produit britannique, hein, donc un papier peint anglais. Alors bien que je n'ai pas eu le temps ici de développer à ce sujet, il faut souligner qu'avec la France et l'Allemagne, l'Angleterre continue alors d'être l'un des principaux pays producteurs de papier peint et que ces papiers peints anglais connaissent vraiment un très grand succès dans l'Europe entière et sur un plan international. Et ce papier peint-là, donc ornant cette chambre où séjourna Muchat dans la maison Bergès, ce papier peint ici correspond à un papier peint de type sanitary, un type de produit lavable et très bon marché, tel que la Grande-Bretagne en produisit beaucoup, et vraiment des papiers peints sanitaries qui connurent un très grand succès sur le plan international. Et cet exemple donc montre effectivement un exemple de la diffusion en France de ce type d'article. Je vous montre ici rapidement une autre pièce de la maison Bergès avec à nouveau une chambre ici avec un papier peint, un papier peint attribuable cette fois à une manufacture française, donc la manufacture Isidore Leroy, un papier peint produit par Leroy à partir de 1899-1900 où on retrouve ici comme très souvent donc comme motif floral la fleur de pavot avec toujours aussi cette symbolique que j'évoquais déjà, cette symbolique du cycle vital puisque ce pavot est représenté à différents en différents états de floraison, donc en différents stades de son existence. Parmi les exemples les plus remarquables de papier peint Art Nouveau préservé in situ, j'évoquerai également rapidement celui ici de la Villa Bethany à Rennes-le-Château, la Villa Bethany de l'Abbé Saunière à Rennes-le-Château dans le département de l'Aude en France, un site à l'histoire plutôt sulfureuse et un site qui est bien plus connu en fait, certains d'entre vous le savent peut-être, pour ses supposés mystères et le supposé trésor qui aurait été découvert à Rennes-le-Château par l'abbé. Moi ici ce qui m'intéresse donc n'est pas ce trésor mais le papier peint de cette Villa Bethany, et je vous montre ici cet exemple pour évoquer un type de décor extrêmement remarquable qui fait vraiment partie de la catégorie des décors les plus luxueux de l'époque, un type de papier peint héritier des fameux panoramiques de la première moitié du 19e siècle, donc constitué de plusieurs éléments se raccordant. Et vous pouvez donc voir ici ce très vaste paysage avec ce très large horizon, avec la représentation de tout ce monde végétal, toutes ces fleurs, ce monde animal également, dans un style purement Art Nouveau et qui agrémentait donc le quotidien de la l'abbé Saunière. Alors je regarde l'image et je m'aperçois que c'est un peu flou. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire une mise au point, sinon on fera avec. Alors, par leur rareté, parce qu'ils sont plutôt rares, les papiers peints Art Nouveau toujours en place dans cette demeure de l'époque ne suffisent pas à attester vraiment la diffusion massive de ces articles. C'est pourquoi l'enquête peut également se tourner vers le domaine de la photographie à la recherche d'intérieurs ainsi papiétés, et pour lesquels des photographies, il me fut bien souvent possible de reconnaître les papiers peints qu'elles rendent visibles. Alors, ce type d'investigation peut se tourner vers la production de photographes bien connus. L'exemple que je vous montre ici fait partie des premières expérimentations photographiques du célèbre photographe Jacques-Henri Lartigue, Jacques-Henri Lartigue prit ce cliché en 1904 dans sa chambre d'enfant avec cette photographie donc intitulée « Mon hydroglisseur à hélice » et dans laquelle est visible ce papier peint avec ce grand motif floral, un papier peint dont j'ai donc retrouvé un échantillon similaire dans les collections du musée du papier peint à Rixheim, bien que son fabricant demeure inconnu, un échantillon daté 1899-1900. Oui, plus que 5 minutes, oui. On va faire, on va se dépêcher. Alors, la photographie amateur a également tendance à se développer largement à cette période, et certains artistes de l'époque ont pratiqué cette photographie, ce type de photographie d'intérieur. Et donc ici un exemple chez le célèbre peintre français Édouard Vuillard, qui pratique également la photographie.